8h, 9h, format A3.
Une page d'histoire dans format A3 ce matin. On revient au 19e siècle, dans les expositions, les zoos et les foires, pour un spectacle qui paraît complètement fou aujourd'hui, des êtres humains qu'on a mis en cage.
Oui, c'était ces fameux zoos humains, hein, où l'on montrait des étrangers le plus exotiques possible pour pouvoir s'ébahir des curiosités de la nature. Un exotisme qui en fait était construit de toutes pièces pour faire sensation.
Avec nous, l'historien Nicolas Bancel, spécialiste de l'époque des colonisations et membre du groupe de recherche HAC. Bonjour.
Bonjour.
Ce soir, vous donnez une conférence avec votre confrère Pascal Blanchard au Club 44 sur les zoos humains ou l'invention du sauvage. Quel était ce phénomène, Nicolas Bancel ?
Vous l'avez décrit très brièvement. En fait, c'est au 19e siècle, on a commencé à importer des groupes, donc ce qu'on appelait alors des exotiques, qui pouvaient venir d'ailleurs de beaucoup de provenances. On trouvait des lapons, des tribus d'Amérique latine, et puis bien sûr des ethnies africaines. Et au fur et à mesure que la colonisation a avancé, à la fin du 19e siècle, eh bien ces groupes se sont multipliés. C'est devenu un véritable système économique où on montrait donc ces groupes dans le cadre d'endroits où habituellement on montre les animaux. Des zoos, des jardins zoologiques d'acclimatation, mais ensuite le spectacle s'est diversifié, on a pu en présenter dans des cirques, dans des foires, il y a eu d'autres types d'exhibitions comme ce qu'on appelait les villages nègres, qui étaient très célèbres alors, et ce sont des dizaines de troupes qui ont sillonné l'Europe, mais aussi les États-Unis pendant près d'un siècle, et qui ont contribué, on va dire, à construire notre imaginaire sur la race, sur l'autre, et bien sûr sur les hiérarchies entre les groupes humains.
Et les personnes qui étaient exposées au public, en fait, parfois elles étaient bien plus banales que ce qu'on voulait faire croire à ce fameux public, justement. Et vous l'illustrez par l'exemple des canaques du zoo de Vincennes à Paris.
Oui, c'est un peu un exemple qui nous montre finalement comment on a construit une image du sauvage, comment on a inventé en quelque sorte le sauvage. Alors cette histoire est tout à fait emblématique, et elle est un peu connue, puisque le grand-père de Christian Carambeu, un célèbre footballeur, faisait partie d'une troupe qui avait été rassemblée en Nouvelle-Calédonie. Pour être présenté dans le cadre de l'exposition internationale coloniale de Vincennes en 1931. Alors pour vous situer, c'est la plus grosse exposition de l'entre-deux-guerres. Il y a 8 millions de visiteurs, 32 millions de tickets vendus, hein, parce qu'on retourne 5-6 fois à l'exposition. Donc c'est vraiment une manifestation de masse. Et en fait, sur le bateau, l'impresario explique aux gens qu'il a recrutés que, en fait, ils ne vont pas représenter la Nouvelle-Calédonie comme ils le croyaient, mais ils vont être des cannibales canaques. Et qui sont ces cannibales canaques ? Eh bien, ce sont en général des petits fonctionnaires, des petits commis d'administration qui font partie alors de ce qu'on appelle des évolués. Ce sont ce groupe de personnes, d'autochtones, qui se trouvent en quelque sorte assimilés en partie à la culture européenne. Et donc, ce sont des gens qui s'habillent à l'occidental, qui parlent français. Et on va leur demander donc de jouer le rôle des cannibales canaques. Ils vont jouer ce rôle. Alors finalement, ce sera pas dans le cadre de l'exposition internationale de Vincennes, mais juste à côté, au zoo de Vincennes. Il faut payer 5 sous pour voir le spectacle en plus du zoo. Et à 5 heures, il y a une grande attraction. On jette de la viande aux sauvages. Et alors, ces petits fonctionnaires se retrouvent grimés en cannibales. Donc, on leur peint le visage, on les met en pagne. Et à 5 heures, donc, on leur jette de la viande. Et à ce moment-là, ils doivent bondir sur cette viande en poussant des cris terrifiants. Et à ce moment-là, les enfants et leur maman ont très peur. Et ce spectacle a beaucoup de succès. Voilà un des types de représentations. Alors, on peut en rire aujourd'hui, mais finalement, c'était pas très drôle, parce que c'est vraiment une projection fantasmatique dans laquelle ces troupes ont joué finalement à construire des fantasmes qui étaient ceux de l'Occident.
Mais pourquoi justement ces mises en scène ? C'est pour montrer une supériorité de l'homme blanc face au sauvage qu'on va montrer comme une bête de foire ?
Alors il y a sans doute une partie de ça, parce qu'on est convaincu au 19e siècle et au 20e siècle, une grande partie du 20e siècle, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la hiérarchie des races existe. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. En tout cas, il y a une supériorité, en tout cas de civilisation, on en est certain, de la civilisation européenne sur les autres civilisations. On n'est pas du tout encore rentré dans le relativisme culturel. Alors c'est possible qu'il y ait ce soit une manière de se réassurer sur sa propre supériorité, mais on le constate, il y a beaucoup d'autres types de spectacles. Je vous ai donné un exemple extrême, mais quand on regarde les villages noirs, on est sur d'autres types de représentations qui sont beaucoup moins brutales, beaucoup moins racialisées. Alors, Pourquoi ce type de spectacle ? Dans le cadre des Cannibal Canucks, ça me paraît assez clair. C'est une entreprise privée. Les spectacles ethniques, on commence un peu à baisser, je dirais, d'intensité en termes de public. Donc, il faut trouver de nouveaux ressorts, si vous voulez, pour que, eh bien, pour que ce spectacle attire, qu'il soit rentable. Et le spectacle des cannibales est l'un de ceux qui marche le mieux. Si vous voulez, on en trouve en Allemagne, on en trouve en Autriche, on en trouve un peu dans toute l'Europe. Et le cannibale est encore l'incarnation d'un sauvage qui fait peur, qui fait frissonner, qui incarne vraiment encore une part d'exotisme inexplorée. Et en plus, c'est totalement transgressif, le cannibalisme dans la culture européenne, ça, en plus l'attrait du voyeurisme et de la transgression. Donc je pense qu'on est plutôt dans une dynamique qui est celle de trouver toujours des spectacles plus extraordinaires, plus exotiques, plus choquants, hein, qui vont pouvoir rentrer dans le circuit économique des spectacles ethniques et pour les entrepreneurs privés faire de l'argent. D'ailleurs, il y a quelque chose de significatif, c'est que ce spectacle des Cannibal Canucks a été exclu de l'exposition internationale de Vincennes, qui est une exposition officielle. C'est une grande exposition qui vante la colonisation française, qui accueille d'ailleurs des représentants des autres empires coloniaux. Et pourquoi on exclut cette exhibition ? Bien parce que en 1930, si vous, après presque un an presque un siècle de colonisation, vous continuez à montrer des cannibales, ça prouve d'une certaine manière que ce que vous avanciez pour justifier, pour légitimer la colonisation, à savoir la mission civilisatrice, bien cette mission civilisatrice, elle a échoué.
Ça marche pas, ouais.
Ça marche pas.
Donc, Nicolas Vincel, voilà. Le groupe de recherche Achac, dont vous faites partie, s'intéresse à l'histoire coloniale, à l'histoire culturelle. Donc, si vous étudiez ces zoos humains, c'est pour essayer de voir ce que ça nous apprend sur les mentalités et comment ça a influencé le développement du racisme. En quelques mots, vous avez des pistes de réponse pour ça ?
Oui, alors en quelques mots, d'abord je précise aussi que je suis prof à l'université de Lausanne parce que c'est important aussi, je suis ancré ici et on travaille aussi avec un groupe de recherche ici sur ces questions-là. Et pour vous répondre très rapidement, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre à travers le groupe de recherche Achac ? On cherche à comprendre les généalogies finalement des représentations de notre archéologie mentale de la différence. Hein. Comment se sont construites toutes ces représentations différentialistes, hiérarchisantes, et on s'est aperçu, bon, il y avait pas besoin d'être grand clair pour le deviner, que la période coloniale est tout à fait fondatrice pour l'Europe et pour l'Occident en général de la construction de ces représentations. Et dans notre perspective, on essaie de comprendre comment ces systèmes de représentation, de valeurs, d'idéologie politique se sont transmises pour tout ou partie, ont pu perdurer à la fois dans les représentations mentales, mais aussi dans, je dirais, les constructions sociales, hein, par exemple les rapports intercommunautaires, la persistance de discrimination, etc. Comment donc on peut avoir une perspective historique longue qui va du colonial jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui.
Nicolas Vincel, les zoos humains, aujourd'hui, ça nous paraît assez invraisemblable. Quoique, quand on voit certaines émissions télévisées, je pense à certaines émissions de télé-réalité où on enferme des gens dans une pièce puis où on observe leurs réactions, ça s'apparente un petit peu à ces zoos humains ?
Alors moi je pense qu'il faut faire quand même très attention avec ce type d'analogie parce qu'à ce moment-là, le concept de zoo humain est totalement extensible et on ne sait pas trop où il s'arrête. Et là, il me semble qu'on est quand même dans une autre configuration parce que ce qui est vraiment singulier dans le zoo humain, c'est justement la question de la race. Comment on représente la race, comment on expose la différence, comment on appréhende les cultures autres, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas que vous citez. Non, ce qu'on pourrait éventuellement, là où on pourrait faire une analogie qui serait intéressante à creuser, c'est peut-être avec le tourisme ethnique, par exemple. Comment on va voir des groupes ethniques à travers des tours opérateurs qui sont spécialisés dans ce type de commerce et pour rechercher là aussi une espèce d'authenticité de sauvagerie de peuples qu'on décrit comme ahistoriques. Bon, et en fait quand on participe à ce type d'opération, ben on sait très bien que si on va voir les Maasai par exemple, les Maasai vont faire leur danse guerrière pour vous accueillir, vous allez manger les plats traditionnels, puis une fois que vous serez parti, ben ils vont remettre leurs jeans, recommencer à travailler normalement et voilà, et l'histoire continue. Donc on serait plutôt dans, je pense qu'il y a, là aussi il ne faut pas faire non plus de lien systématique, il faut voir comment ça peut se relier, mais c'est plutôt vers ce type de dispositif qu'on pourrait sans doute produire des liens et des analogies.
L'invention du sauvage, donc c'est justement le sous-titre de votre conférence, Nicolas Boncel, que vous donnez ce soir à la Chaux-de-Fonds au Club 44 à 20h15 avec votre confrère Pascal Blanchard. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Bonne journée.
A3, c'est plus sympa. Format A3.